Alors aujourd'hui, nous avons une sainte, tout le monde connaît son nom, mais il y a un certain mépris qui a été jeté sur elle, je ne sais trop pourquoi, si ce n'est que parce qu'on ne connaît pas vraiment sa jeune vie, c'est Maria Goretti. Maria Goretti qui passe pour une petite naïve, auprès de bien des gens qui pensent avoir l'esprit plus fort que d'autres, mais je fais appel à eux. Je vous en prie, écoutez qui est Maria Goretti. Vous serez surpris. D'abord, il est beaucoup question de nos jours de harcèlement sexuel. Et les femmes, de plus en plus, grâce au mouvement féministe en particulier, et chose assez surprenante, grâce aussi à bien des femmes que l'on considère comme des femmes de droite, protestent contre l'attitude de certains hommes à leur égard, qui les considèrent comme des objets sexuels. Et ce harcèlement sexuel qui existe de plus en plus sur les lieux de travail en particulier, ou dans les endroits publics, devient exaspérant pour des femmes, surtout des femmes qui sont peut-être plus jolies que d'autres, et qui attirent plus facilement les regards de certains hommes. Et elles ont bien raison de vouloir être considérées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des êtres humains, quoi. Et la petite Maria Goretti était justement une très jolie fille. Oh, elle n'avait que 12 ans quand elle est morte en 1902. Mais déjà, comme bien des jeunes Italiennes et de jeunes Espagnoles, et aujourd'hui de nombreuses jeunes filles ou de fillettes de 12 ans, elle en avait l'air de 15 ou 16. C'est dire qu'elle avait déjà l'air d'une jeune fille tout à fait mariable dans l'esprit d'une tradition très très ancienne. Moi, ma grand-mère s'est mariée à 16 ans au milieu du siècle dernier. Ma grand-mère paternelle, elle s'est mariée à 16 ans. Et c'était normal, pour ainsi dire, à l'époque. Et alors donc, cette sainte étonnante qui est Maria Goretti, ou Marietta de son diminutif, est morte, je vous ai dit, en 1902, et elle a été canonisée en 1950. C'est assez rapide, hein? Elle avait d'ailleurs été béatifiée 3 ans plus tôt, en 1947, par Pie XII. Et dans quelles circonstances extraordinaires, ces deux cérémonies ont eu lieu devant sa mère. Devant sa mère. Quand elle a été canonisée, sa mère avait 87 ans. Et chose absolument phénoménale, son assassin était là aussi. Car son assassin s'est converti en prison. Je vous raconterai comment il s'est converti. Comment, après une vie difficile, ce jeune homme est devenu quelqu'un de vraiment remarquable. Je vous signale, par ailleurs, qu'en 1985, il y a 10 ans, le pape Jean-Paul II a béatifié une Zaïroise, une religieuse, sœur Marie-Clémentine Awaril, en présence de son assassin, elle aussi. Et sa fête est le 1er décembre. C'est une jeune religieuse. C'est lors de massacres au Zaïre, n'est-ce pas? Bon, ben, revenons donc à cette première sainte qui a été canonisée en face de son assassin. C'était dans les marais pontins qu'elle a vécu. Qu'est-ce que les marais pontins? Ce sont des... c'est très insalubre que les marais dits pontins de l'époque. Hein. C'est dans le centre de l'Italie, peut-être à la hauteur, disons, de Florence, un peu au sud de Florence. Ce serait face, si vous voulez, à Medjugorje. Medjugorje est en Yougoslavie, d'une part, de la mer Adriatique. Et à gauche, eh bien, vous avez les marais pontins sur la péninsule de l'Italie. C'était inhabitable, ça. Mais elle n'est pas née là, elle. Elle est née à Corinaldo, dans le diocèse de Sinigaglia. Dans la province d'Ancône. La province d'Ancône, c'est juste à peu près cet endroit-là. C'est dans la même région, la province d'Ancône. Le 16 octobre 1890. Et ses parents, qui étaient Louis Goretti et Assunta Carlini. Assunta, ça veut dire Assomption en français. C'est assez surprenant, mais ce sont des noms que l'on voit dans ces régions-là. On le trouve aussi chez les Espagnols. Hein. Assomption, Annonciation pour des fillettes. Et alors, ses parents étaient très pauvres, mais ils avaient une foi solide. Alors, ils l'ont fait baptiser aussitôt, comme on faisait dans mon jeune âge. On était baptisés le jour même ou le lendemain de notre naissance. C'était par peur qu'on aille aux limbes. Je vous parlerai un jour des limbes. Je n'y crois guère aux limbes. Je ne veux pas vous scandaliser. On n'est pas tenu comme catholique à croire aux limbes. C'est spécifié dans tous les ouvrages de théologie sérieux. Mais je ne m'aventure pas là-dessus de crainte de blesser la susceptibilité de certains auditeurs. Et alors donc, elle avait à peine 6 ans quand elle a reçu le sacrement de confirmation. Et je crois que ce sacrement était très vivant en elle. Cette affirmation en elle de la présence de l'Esprit-Saint au nom de l'Église, où tout le corps mystique prie officiellement devant un évêque et par la bouche d'un évêque pour qu'une âme soit saisie par l'Esprit-Saint davantage, car l'âme a déjà été remplie de l'Esprit-Saint par son baptême. Et pour gagner sa vie, son père, Louis Goretti, a dû quitter la montagne et descendre justement vers ces marais pontins dont je vous ai parlé, et qui ont été asséchés plus tard. Hein, ils s'étaient mis en culture par Mussolini. Ça. Alors les marais pontins n'existent pour ainsi dire plus. Et la famille a habité quelque temps, à partir de 1899, donc 3 ans avant la mort de Maria Goretti, au diocèse d'Albano, sur le bord de la Méditerranée. Et elle était installée dans une ferme qui appartenait au comte Mazzolini. Alors, c'était un peu comme des serres autrefois. Hein. On avait nous-mêmes ici des ancêtres qui travaillaient en partie un peu dans les mêmes circonstances tout le long du fleuve Saint-Laurent, pour des seigneurs et des gens qui possédaient les terres. C'était la coutume. Et en même temps, habitait là une famille du nom de Serenelli. C'est le nom de l'assassin de Maria Goretti. Louis Goretti, lui, est mort 1 an plus tard, parce que probablement que les marais pontins, qui étaient extrêmement insalubres, ont eu raison de sa santé. Puis il a laissé à sa veuve la charge de 6 enfants en bas âge. Madame Goretti était obligée de travailler dans les champs. Je vous rappelle, elle s'appelait Assomption, Assunta. Elle a confié le soin du ménage à sa fille aînée, Maria, qui prenait soin de ses frères et sœurs. C'est une petite fille exemplaire. Elle était obéissante comme savaient l'être ces jeunes filles qui avaient la charge des familles dans le temps. Il y en avait beaucoup, hein. C'était extrêmement répandu. Souvent, les pères mouraient jeunes. Ici même, à Montréal, c'était comme ça. Et combien de femmes qui m'entendent se souviennent qu'à l'âge de 8 ou 10 ans, elles avaient la responsabilité d'une famille, pendant que leur mère travaillait à faire des ménages quelque part ou à travailler dans une usine. Elle savait se faire aimer, Maria. Elle savait diriger la maisonnée aussi. Et elle était pour sa mère une grande consolatrice dans ses malheurs. C'était une jeune fille intelligente et solide, qui était pieuse, qui récitait, comme une bonne petite Italienne de l'époque, elle récitait assidûment son chapelet. Comme on le faisait autrefois, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, quand le cardinal Léger récitait le chapelet à la radio, on dit que la province entière, ou du moins toute la région de Montréal, se mettait à genoux, on exagère, et que une très, très grande partie des familles récitait le chapelet avec dévotion. Tout ce temps est bien passé. Et Marie a été finalement admise à faire sa première communion le 29 mai 1902, donc pas longtemps avant sa mort. Hein. C'était le jour de la fête de Dieu, elle avait 11 ans. Et le fils des voisins, Alessandro Serenelli, qui n'avait que 18 ans, c'était un beau bonhomme, hein. Mais il s'était perverti. Il avait des camarades qui n'étaient pas ce qu'il aurait dû avoir. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Hein. Et il avait fait aussi des lectures plus ou moins pervertissantes. On dit, ah, les mauvais livres, il faut se moquer de ça, on peut laisser lire à nos enfants n'importe quoi, on peut les laisser regarder n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. C'est faux, c'est ridicule. Je trouve ça invraisemblable que des gens puissent prétendre de telles choses. Ça marque l'âme des enfants, car ils sont très malléables, ils sont très impressionnables, ils ne disent presque rien. Mais c'est tout à coup dans leur regard qu'on voit s'effacer une certaine lumière et une certaine joie. Et on se demande pourquoi. On ne peut pas toujours savoir pourquoi. Il y a tellement d'occasions invraisemblables de nos jours en particulier. Car à l'époque, au tournant du siècle, j'imagine que les publications ne portaient pas les mêmes photos qu'on porte aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces cassettes et vidéos pornographiques que les jeunes parfois ont en main à l'âge de 12-13 ans. J'étais témoin de choses semblables dans des régions comme Saint-Henri à l'époque et Pointe-Saint-Charles où je m'occupais de certaines familles. Et puis aujourd'hui c'est partout, hein, on les retrouve partout. Alors, Alessandro Serenelli, 18 ans, vous ai-je dit, a profité des absences fréquentes de Madame Goretti. Alors, il s'est mis à s'adresser à Marietta et à se rendre poli avec elle, gentil. Il l'aidait dans des gros travaux. On en parlait comme d'un jeune garçon qui avait bon cœur et qui était bien sympathique, mais tout à coup, il s'est mis à lui tenir des propos obscènes. Puis il lui défendait d'en parler. Il lui disait que s'il en parlait, bien, il la battrait. Elle sentait au fond de son cœur, c'est la conscience naturelle, pourrait y revenir, mais dans la conscience naturelle de tout être, tout homme, toute femme, même si on est dans des milieux très difficiles, où il n'y a presque plus de morale, les enfants ressentent au fond de leur cœur ce qui est bien, ce qui est mal. On le ressent tous. C'est avec l'âge que l'on fait éteindre ce sentiment profond qui est dans la nature humaine, qui nous indique ce qui est bien, ce qui est mal. Et elle le sentait. Elle n'a pas hésité à demander à sa mère de lui indiquer la conduite qu'il fallait qu'elle tienne dans de semblables circonstances. Alors elle était bien avertie par sa mère, puis elle a pris la résolution de ne jamais consentir à ce qu'elle considérait dans son cœur comme le mal. Et de plus en plus passionné, le jeune Alessandro essayer par deux fois de la faire succomber, parce qu'il la trouvait bien belle. Hein? Elle était jeune, mais elle était belle, elle était grande, elle était jolie. Je vous ai dit qu'elle avait l'air d'une jeune fille de 15-16 ans. Mais sa résistance, qui était indomptable, l'a exaspérée. Le 5 juillet 1902, le 5 juillet 1902, dès que Madame Goretti fut partie au champ, il s'est présenté armé d'un poinçon de 20 cm, c'est-à-dire d'à peu près 8 pouces. Et puis il a offert à Marietta, ou à Maria Goretti, de choisir entre la mort puis la perte de ce qu'il a appelé son honneur. C'était le vocabulaire et il ne s'est pas gêné pour l'utiliser. Alors elle était inébranlable et elle a résisté avec une force au-dessus de son âge aux tentatives de celui qui voulait la violer. Pensez à ce film de l'Office national du film. Sur le viol, j'espère que vous l'avez vu, il est passé plusieurs fois à Radio-Québec et même à Radio-Canada. C'est un film bouleversant sur le viol et on voit dans quelle misère ces femmes sont tenues par certains hommes qui perdent la raison, qui sont conduits seulement par leur appétit sexuel qui semble dominer leur raison, leur capacité de se conduire comme des êtres humains véritables. Et c'est un film épouvantable et bouleversant. Pensez aussi à toutes les femmes qui protestent contre le harcèlement sexuel et elles ont bien raison. Elles exagèrent peut-être, bon, je le concède, il y en a qui exagèrent, on les regarde un peu, puis elles s'imaginent qu'on les harcèle. Mais ne parlons pas de ces cas exceptionnels, à mon avis, il y a des vrais cas de harcèlement sexuel où les femmes n'en peuvent plus. Ça devient exaspérant. Elle est donc un modèle, j'inviterais d'ailleurs les femmes chrétiennes, qui ont un peu de respect pour Maria Goretti. J'espère que vous allez le gagner, le respect pour Maria Goretti, car c'est une femme qui, à mon avis, est fantastique. Non seulement a-t-elle résisté, mais elle a pardonné. Elle a respecté sans cesse à Alessandro. Non, non, Dieu ne veut pas, c'est un péché, vous iriez en enfer. Vous iriez en enfer. Déjà, elle pense à ce qui pourrait arriver à l'autre, moins à elle, qu'à ce garçon qu'au fond qu'elle estime, c'est son voisin. Il était bon pour elle, il l'a aidé dans des travaux. Elle ne veut pas qu'il aille en enfer. C'est une enfant de 12 ans, c'est sa façon de penser. Mais au fond, est-ce que ça ne devrait pas être notre façon de penser, même quand on en a 70? Et au comble de la rage, eh bien, Alessandro lui a porté 14 coups de son poinçon. Il lui a perforé un poumon. Il a atteint la région du cœur, il a déchiré les entrailles. Et pendant qu'elle souffrait, elle a oublié sa douleur. Elle n'a continué à penser qu'au salut éternel de celui qui l'assassinait. Ça vous fait pas penser à quelqu'un d'autre? Moi, ça me fait penser à Jean-Paul II, à son assassin Aliatcha, auquel il a pardonné alors qu'on le transportait à l'hôpital. Et le premier geste qu'il a fait quand il a pu marcher, c'était d'aller en prison embrasser cet assassin et lui pardonner. Eh bien, lui a pardonné tout de suite. Écoutez bien ça. Transporté d'urgence à l'hôpital de Nettuno. Eh bien, Maria Goretti a raconté à sa mère ce qui s'était passé. Alessandro voulait me faire commettre un vilain péché et moi, je n'ai pas voulu. Alors, le curé qui l'assistait lui a raconté la mort de Jésus en croix et puis la conversion du bon larron. Et pour conclure, soyez sans crainte, je ne trouve pas ça quétaine pour deux sous. Je trouve ça très beau que ce prêtre ait fait ça. C'est très, très beau. C'est un vrai prêtre. Et pour conclure, il lui a demandé, « Et toi, Marietta, pardonnes-tu à ton bourreau ?» Et voilà ce qu'elle a dit, et c'est consigné. « Oh oui, pour l'amour de Jésus, je lui pardonne, et je veux qu'il vienne avec moi en paradis. » Quel exemple extraordinaire! Ça vous rappelle pas aussi autre chose qui s'est produit ici, que l'on a pu voir dans ce beau film sur le pardon, cette famille de la Rive-Sud, si je me souviens bien, les Dupont, qui ont pardonné à l'assassin de leur fille. J'espère que vous avez vu ce beau film, car c'est le pardon qui habite Maria Goretti. C'est pour ça, à mon avis, qu'elle est une sainte. C'est pas tant parce qu'elle a résisté. Que de personnes qui ne sont pas croyantes ont résisté à leur violeur, que de femmes ont résisté. Et probablement même de nos jours, des jeunes gens, car s'en est rendu que ce sont des jeunes gens aussi qui sont violés. Eh bien, s'ils résistent et s'ils sont assassinés, ça ne fait pas d'eux nécessairement des martyrs de la foi. Ce qui fait de Maria Goretti sa grandeur et la beauté de ce qu'elle est, c'est l'amour, le pardon profond. Hein? Oh oui, pour l'amour de Jésus, je lui pardonne et je veux qu'il vienne avec moi en paradis. Puis elle est morte le lendemain, le 6 juillet 1902, il y a 93 ans, en invoquant la Sainte Vierge. De nombreux miracles ont eu lieu sur sa tombe, mais le plus remarqué fut la conversion de son assassin. Condamné à 30 ans de travaux forcés, eh bien Alessandro Serinelli se faisait remarquer dans sa prison pour son cynisme et sa brutalité. Ça me rappelle encore ce pauvre Bernardo dont on fait le procès actuellement, ce cynisme. Espérons qu'un jour il se convertira. Hein. Et en 1910, bien Alessandro Serinelli a vu en songe Maria Goretti dans un jardin au milieu des lys et lui offrant une fleur. C'est un songe curieux. Probablement un songe inspiré. Hein. Et alors, bouleversé, il a écrit une lettre à l'évêque où il exprimait ses regrets. Et alors, sa conduite est devenue si exemplaire qu'il a été relâché en 1929. Il a été décidé, là. Il s'est décidé à travailler à la béatification de celle qu'il avait tuée. Et en 1937, en toute humilité, avec beaucoup de gêne, il est allé trouver la mère de Maria Goretti, puis il lui a dit, « Madame Goretti, me pardonnez-vous. » Et cette femme, qui était vraiment une chrétienne exemplaire, lui a répondu tout simplement, « Maria vous a pardonné en mourant, et pourquoi moi, sa mère, je ne vous pardonnerai pas ?» Et à la Noël suivante, bien, ils communiaient l'un à côté de l'autre, au jour de Noël. Et le procès, commencé en juillet 1938, s'est terminé le 25 mars 1945. Le 27 avril, le Pie XII a béatifié Maria Goretti. Puis le 24 juin, je vous le rappelle, 1950, le 24 juin, à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, 1950, devant sa mère âgée de 87 ans, devant ses frères et ses sœurs, devant son assassin, mais le pape Pie XII a canonisé la petite Marietta Maria Goretti, martyre à 12 ans, non seulement pour avoir défendu sa pureté jusqu'à la mort, mais pour avoir su pardonner du fond de son cœur à celui qui l'avait tué. allons maintenant vers un saint très spécial qui a vécu il y a bien longtemps, celui-là, il y a 1500 ans. Il est mort en 429. C'est un ermite. Mais je vous en parle parce que c'est vraiment sympathique et ça nous rapproche des pères du désert. Je vous expliquerai pour ceux qui savent pas ce que c'est que les pères du désert. Bon, je vous l'explique tout de suite. Ce sont ces hommes que l'on appelle des pères, c'est-à-dire ils ont vécu dans le désert, ils ont fui une civilisation décadente, la Rome décadente, l'Empire romain qui s'écroulait dans le paganisme le plus épouvantable, et s'enfuyaient au désert pour vivre ensemble une vie chrétienne plus profonde. On peut les blâmer, mais alors il faudrait blâmer les bénédictins, les trappistes d'aujourd'hui, les chartreux, les camaldules, etc., mais tu carmélites, mais non. Je crois que deux nous sont arrivés des paroles et des exemples remarquables. Et Cisoès apparaît comme l'un des principaux pères du désert, de la génération qui a suivi saint Antoine, dont je vous ai déjà parlé il y a plus d'un mois. Il était en quelque sorte d'ailleurs le successeur de saint Antoine. Saint Antoine, pas saint Antoine de Padoue, saint Antoine ermite. Et il a succédé donc à saint Antoine après sa mort. Il est allé demeurer dans l'endroit où ce grand patriarche que saint Antoine avait sanctifié par sa présence, l'endroit qu'il avait sanctifié par sa présence dans les dernières années de sa vie. Alors il est parti vivre en solitaire, ce Cisoès. S-I-S-O-E, accent grave, S. S-I-S-O, accent grave, S. Cisoès. Il n'était pas un novice quand il est parti comme ça. Il avait passé plusieurs années déjà au désert de Cété. Cété, ça s'appelle S-C-E, accent aigu, T-E, accent aigu. C'est un nom très important dans le monde des pères du désert, du début de l'Église. Vous savez, on doit beaucoup à ces gens. Notre foi ne dépend pas de leur façon de regarder les choses, mais on peut en tirer profit en ce sens que dans notre cœur, tout en vivant dans le monde, il faut savoir s'en séparer. Il faut savoir ne pas se laisser happer par la bêtise du monde. Il faut savoir écouter du bon jazz sans se laisser prendre par ce qui pourrait apparaître comme païen à l'intérieur du jazz, qui est une musique joyeuse. Je tiens à le répéter, c'est une musique souvent très joyeuse. N'ayons pas peur de ce genre de musique, à moins que vous n'aimiez vraiment pas ça, c'est autre chose. Il a dû passer, notre saint Cisoès, plus de 70 ans dans son ermitage. 70 ans dans un ermitage. Ça peut sembler étrange. J'ai rencontré, moi, j'ai visité peut-être 80 monastères dans ma vie, en Europe et un peu partout. Et j'y ai rencontré des hommes qui y avaient vécu très très longtemps, qui pouvaient y être entrés en 18 ans, 20 ans et qui en avaient 90, mais qui étaient des hommes absolument superbes et de vieilles sœurs aussi dans des cloîtres, au regard de feu et de joie, hein. Je vous ai déjà parlé de cette sœur, Clarisse. On lui demandait, vous n'avez pas peur de la mort, ma sœur? Elle a dit, non, la mort. Mais c'est comme un grand saut dans les bras du bon Dieu. Et on sent ça chez ces gens-là. Ils n'ont pas peur. Ils ne craignaient pas les plus grandes austérités. Par exemple, ils ne mangeaient qu'un jour sur deux. Et si par hasard, il acceptait de manquer à son jeûne, mais il savait bien trouver une autre pénitence en compensation. Mais il a abandonné rapidement, heureusement, les mortifications extravagantes. Il est le héros, si on peut dire, de beaucoup d'apophtegmes. Des apophtegmes, ce sont des réflexions morales que les pères du désert prononçaient. En somme, des espèces de maximes mémorables. Et puis, ils en ont laissé beaucoup. Il y a des livres là-dessus. Et c'est là qu'on trouve la vraie spiritualité des pères du désert. Et lui, il s'est montré un excellent directeur. Et il aidait beaucoup les gens qui venaient chez lui pour lui poser des questions, puis il donnait de bonnes réponses. Il y avait un jour un solitaire, là, un ermite, qui avait été offensé par un autre. Il est venu trouver notre saint Cisoès et lui a déclaré, « Hey, mon père, je suis résolu à me venger. » Alors, Cisoès ne pouvait pas le calmer, il n'y arrivait pas. Alors, il l'a invité à prier Dieu avec lui, puis a commencé à haute voix, en disant simplement, « Mon Dieu, il n'est pas nécessaire que vous preniez soin de nos intérêts, alors soyez donc notre arbitre dans notre combat, puisque ce frère soutient que nous pouvons et devons nous venger nous-mêmes. » Il était moqueur, hein? Alors là, le solitaire enragé s'est jeté aux pieds de Cisoès, lui a demandé pardon. Il a promis de ne jamais vouloir de mal à celui contre lequel il avait été si en colère. C'est parce que quand on met dans une formule de prière le désir qu'on a de se venger, ça marche plus. On peut pas prier Dieu pour nous aider à nous venger. Et c'est là qu'il a compris. Et ce genre d'histoire, ben, on en trouve beaucoup. On s'est acharné des tas de générations chrétiennes. Elle le mérite d'ailleurs, parce que le bon sens qu'on trouve chez les pères du désert, ça s'allie à la foi la plus ardente, hein, et ça produit des vertus chrétiennes vraiment authentiques chez ceux qui les lisent. Et vers la fin de sa vie, eh bien, Cisoès et son ermitage et l'ensemble des ermites là ont été pillés par les Sarrasins, qui n'étaient pas encore des musulmans, et ils ont tout perdu. Il a appris à son disciple Abraham ce qu'il fallait faire dans des circonstances où on perd tout. Il avait dit, gardez-vous de tuer des voleurs ou des barbares, de peur qu'on ne vous appelle un assassin. Mais, ou un homicide. Mais remettez-vous à la providence de Dieu. S'il vous arrive quelque chose de fâcheux, et reconnaissez donc que c'est une punition de vos péchés, n'est-ce pas? Et alors là, il dit que si au contraire vous ne souffrez rien, bien attribuez ce bienfait à la miséricorde de Dieu. C'est peut-être là la clé de bien des problèmes, dire à Dieu merci pour ce qui nous arrive de beau, et dire que ce qui nous arrive de mal, ben, ce serait pour nous guérir de nos péchés. Et quand il fut vieux, M. Cisoès a dû quitter le désert à cause de ses infirmités, et il s'est retiré ailleurs, près de la mer Rouge, et c'est là qu'il est mort, en 429. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un saint si peu connu qu'on imagine toujours que c'est Saint Patrick qui a été le premier à amener les Irlandais au christianisme, au catholicisme, bien c'est Saint Palladius qui a juste précédé Saint Patrick. Alors je vous explique qui est ce Saint Palladius, c'est un évêque qui est mort en 432. En somme, c'est celui-là qui a ouvert la voie à Saint Patrice en Irlande. Son origine, mais pour certains, il venait de la ville d'Auxerre. Auxerre, aussi dans Lyon en France, dans la région, je vous ai déjà dit, n'est-ce pas, dans la région du monastère de Thésée, si vous voulez, de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Et alors pour d'autres, bien, il venait de Rome, mais c'est peut-être plutôt de Rome qu'il venait. Car il était diacre de l'Église romaine, c'est-à-dire qu'il était à peu près, pour aujourd'hui, là, un cardinal vicaire. Et il avait pris à cœur la lutte contre le pélagianisme, cette doctrine qui enseignait que l'homme peut se sauver par lui-même sans l'aide de Dieu. Et il est allé lutter contre le pélagianisme dans les régions lointaines qui sont aujourd'hui, eh bien, la Grande-Bretagne et l'Irlande, oui, oui. Il s'était fait donner avec l'épiscopat une mission pour l'Irlande, où il est arrivé en 431, l'année précédant sa mort. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y avait une espèce de prélude à la fameuse mission qu'avait reçue de Rome, du pape, Saint Grégoire le Grand, qui était bénédictin, le fameux Saint Augustin de Canterbury, qui était aussi bénédictin, qui a fondé le siège épiscopal de Canterbury en Angleterre, qu'occupe aujourd'hui le chef de l'Église anglicane. Et alors, c'est Saint-Augustin de Canterbury est arrivé à peu près 170 ans plus tard. Hein. Notre Saint Palladius s'est fixé près d'un centre chrétien dans le port d'Inverdy, c'est au sud de Dublin, où les affaires et le commerce appelaient beaucoup, beaucoup de gens, de personnes de l'Empire romain. Et à la mort du pape Célestin l'année suivante, en 432, eh bien, il y a eu une lutte contre l'hérésie, le pélagianisme, puis aussi contre le paganisme. C'était pas terminé encore, hein. Alors là, Palladius a voulu rendre compte au nouveau pape de sa mission. Il s'est mis en route pour la Grande-Bretagne. Il avait fait confier une mission à Saint-Germain d'Auxerre. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr si Palladius ne venait pas lui-même aussi d'Auxerre, mais non, il venait probablement de Rome. Et là, il confie la mission à Saint-Germain d'Auxerre, dont on vous parlera un jour, dans la grande île britannique, là, en 429. Et puis, il a voulu revoir Saint-Germain, au passage, notre Saint-Palladius. Alors, il a pris rendez-vous, mais Saint-Patrice, qui lui arrivait d'Auxerre, a appris à Avrol, pas loin de là, la mort de Saint-Palladius qui était survenu en Angleterre. Alors, Saint-Patrice est revenu sur ses pas pour se faire investir de la mission et de l'épiscopat, là, par Saint-Germain d'Auxerre, pour continuer le travail de Palladius en Irlande. C'est donc dire que c'est Saint-Palladius qui a précédé Saint-Patrice là-bas. Et ces saints-là vivaient quelque chose que l'on retrouve dans un poème anglais qui est très beau, un poème irlandais. Je ne vous le donne pas en anglais, c'est take me to you, imprison me, etc. Prenez-moi pour vous et emprisonnez-moi, Seigneur. Si vous ne m'enchaînez pas, je ne serai point libre. Je vous le répète pour que vous le compreniez bien. Prenez-moi pour vous et emprisonnez-moi, Seigneur. Si vous ne m'enchaînez pas, je ne serai point libre. C'est superbe. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que sans être pris par l'amour de Dieu, on n'est pas libre. Il n'y a pas de saint qui n'était pas enchaîné par l'amour de Dieu. J'ai vu à la télévision un jour, télévision américaine, l'assassin de Sharon Tate, que l'on appelait Chuck, fils de famille bourgeoise, élevé dans une banlieue. Il avait rencontré en Californie Charles Manson. Cet être absolument diabolique en apparence. Vous l'avez peut-être vu dernièrement, Charles Manson, à la télévision, avec cette croix gammée entre les sourcils et ce regard épouvantable. C'est tragique. Il dirigeait, n'est-ce pas, comme vous savez, une commune. Et plusieurs des membres de cette commune ont participé à des assassinats abominables, comme celui de Sharon Tate, femme de Roman Polanski, qui était enceinte. Et c'est Chuck, ce Chuck que j'ai vu à la télévision, qui l'avait assassiné, mais il s'est converti en prison. Il disait que depuis qu'il était enchaîné par l'amour de Jésus, il était plus libre en prison qu'il n'avait jamais été libre en dehors, et que la seule liberté, disait-il, était celle du cœur, celle de l'âme, saisie par Jésus. C'était très très beau. Hein? C'était très très beau. Bien des saints qui ont fui le monde et ses libertés qui sont tellement pesantes dans le monde ont pu prononcer ces paroles. « Prenez-moi pour vous et emprisonnez-moi, Seigneur. Si vous ne m'enchaînez pas, je ne serai point libre. » Et c'est comme ça que je trouve que l'on doit vivre si on veut être heureux. Il n'y a pas d'autre solution. C'est aujourd'hui aussi la fête d'un très grand saint. Je recule toujours dans le temps puisque je m'en vais avant Jésus-Christ. Bien oui, encore un saint de l'Ancien Testament, mais l'un des plus grands, sinon peut-être le plus grand, Saint Isaïe. Il y a des gens qui me diront, mais voyons donc, ces saints-là n'ont pas été canonisés. Oui, oui, depuis des années, la tradition de l'Église chrétienne, l'Église catholique, comme l'Église orthodoxe, met au nom, dans la liste des saints, des grands prophètes de l'Ancien Testament et des grands personnages dont nous sommes les héritiers. Parce que nous sommes adhérents à la Bible entière, y compris le Premier Testament. Quelle vitalité, hein, quel instinct prodigieux de conservation il a fallu, quand on y pense, à la conception qu'avaient les Juifs de Dieu pour résister à la conquérance des cultes païens qui les entouraient. On pourrait croire que la morale juive austère aurait dû céder, n'est-ce pas, aux tentations plus ou moins sensuelles et même sanguinaires de tous ces polythéistes, ces adorateurs d'innombrables dieux, qui flattaient les passions, qui cherchaient la volonté de puissance. Eh bien, le peuple juif a résisté. Pensons à nous qui devons aussi résister dans ce monde où on adore le sexe, le pouvoir, le vol et n'importe quoi, où on n'a que des hommages à rendre à ceux qui font 5 millions de dollars par année, et on en a bien peu pour ceux qui donnent tout leur temps, gratuitement, pour les plus pauvres et les plus délaissés dans les bas-fonds de Montréal, ou dans les hôpitaux, ou dans nos écoles, tous ces éducateurs, tous ces professeurs, tous ces gens qui assignent à des enfants un peu indisciplinés mais adorables. En parle-t-on? On acclame que ceux qui chantent 3 chansons pour 100 000 $, on acclame que ceux qui scorent des buts pour 100 000 $. Qu'est-ce qu'on a? L'idéal qui était très cher à ceux qui dirigeaient les peuples juifs, ceux qu'on appelait les Hébreux, mais est toujours demeuré le même, au cœur de quelques-uns à tout le moins. Ils ne se sont pas mis en union avec ceux qui étaient de parfaits hypocrites. Au contraire, les grands défenseurs du peuple juif, ce furent les prophètes surtout. C'étaient des témoins merveilleux, des témoins aux âmes nobles. Ils étaient les interprètes du cœur de Dieu. Ce cœur plein d'amour que l'on retrouve chez les textes de l'Ancien, dans les textes des anciens, de l'Ancien Testament. Et le plus grand parmi tous ces prophètes, mais c'est sa fête aujourd'hui. C'est lui qui, par l'éclat de son style, au 8e siècle avant Jésus-Christ, a proclamé l'amour de Dieu. C'est Isaïe. Isaïe. Son nom veut dire « Yahvé est le salut ». C'était le fils d'Amoz. Nous ignorons son père. Nous ignorons plutôt le père de plusieurs autres prophètes qui étaient d'humble extraction, si on peut dire, dans les termes anciens, nés de familles très simples, comme Daniel, Amos, Abdias, Michée, Nahum, Habakkuk, Agée, dont j'ai parlé avant-hier, Malachi, etc. Isaïe, lui, c'était un fils, dans le sens traditionnel du terme, un fils de famille connue et aisée. Disons que c'était un aristocrate. Il a pu recevoir à cause de ça, et c'est l'avantage de certains aristocrates, ou des gens à l'aise, ils reçoivent une instruction plus soignée. Même encore aujourd'hui, ça arrive. C'est dommage. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès à une instruction vraiment soignée. On essaie. Alors, sa riche culture transparaît dans la façon qu'il a de transmettre ce qu'on appelle ses prophéties, c'est-à-dire ses cris du cœur. Il a été, on pourrait dire, un artiste de la parole ou du verbe. Il a été le maître incomparable de la langue juive, de la langue hébraïque. C'était un véritable musicien. Il tirait d'un vocabulaire abondant de cette langue un rythme qui a des effets saisissants pour ceux qui comprennent cette langue. Vous savez qu'il y a à Montréal des jésuites qui lisent leur bréviaire en hébreu. Il y a au Grand Séminaire de Montréal des sulpiciens qui connaissent la langue hébraïque, ils la lisent comme ça, comme si c'était le journal du soir, quoi. C'est pour eux très facile. Il y a dans l'Église catholique de nombreux prêtres et de nombreux laïcs de plus en plus qui étudient cette belle langue et qui la savourent et qui l'aiment. Il a prêché, lui, Isaïe, dans le royaume de Juda, c'est-à-dire dans le royaume de Jérusalem, royaume du Sud, peu après le prophète Amos et un peu au temps d'Osée, le prophète Osée dont je vous ai parlé avant-hier. Ces deux prophètes, Amos et Osée, se sont promenés dans le royaume d'Israël, du nord, de Samarie aussi. Il a vécu Isaïe à Jérusalem, qu'il aimait beaucoup, où il est probablement né. Il a été appelé à être prophète l'année de la mort du roi Ozias, c'est-à-dire en 738 avant Jésus-Christ. Alors écoutez bien la vision, il la raconte comment il a été appelé. Puis vous verrez que le triple sanctus, triple saint, saint, saint que l'on chante à la messe, il est bien de là. C'est un écho de ce chant mystérieux des anges que l'on retrouve dans l'appel que Isaïe a reçu. Voici son texte, je vous le lis. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur Dieu assis sur un trône haut et élevé. Et les plis de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, ce sont des anges, je le dis pour quelques-uns qui ne sauraient pas, des séraphins se tenaient devant lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2 de ces ailes, ils se couvraient la face. De 2, ils se couvraient les pieds. Et des 2 autres, ils volaient. Et ils se criaient l'un à l'autre, ils disaient, « Saint, 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 est Yahvé, le Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous voyez d'où vient ce chant que l'on chante à toutes les messes. À la voix de ceux qui criaient, les fondements des seuils tremblèrent, et la maison s'emplit de fumée. Et je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi Yahvé des armées. Et vers moi va là un des séraphins, et écoutez bien, c'est beau. Et dans sa main, dans la main de cet ange-là, était un charbon brûlant qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche. Et il dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. » Pensez que ce charbon brûlant qui est sur l'autel aujourd'hui, c'est la Sainte Hostie. Et ce charbon brûlant nous est donné et touche nos lèvres. Que ne devons-nous être semblables à Isaïe? Nos iniquités enlevées, nos péchés expiés. Et on pourrait, comme Isaïe, entendre ce qu'il dit. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui ira vers nous? Et je dis, me voici, envoie-moi, Seigneur. Et Yahvé dit, va, et dis à ce peuple, écoutez, écoutez, mais ne comprenez pas. Voyez, voyez, mais ne saisissez pas. Et endurcis le cœur de ce peuple, bouche ses oreilles, colle ses yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, et qu'il n'entende pas de ses oreilles, et que son cœur ne comprenne pas, et qu'il ne soit pas guéri encore une fois. Et je dis, mais alors jusqu'à quand, Seigneur? Parce que Isaïe, lui, voudrait au contraire que les gens entendent. Et il dit, Dieu dit ça, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, sans habitants, et les maisons sans hommes, et que le pays reste désert. C'est un peu lugubre. C'est la façon de saisir les choses dans l'Ancien Testament. On n'a plus la même vision des choses depuis notre Seigneur Jésus-Christ. On sait bien que Dieu ne dévaste pas les maisons. Les habitants, les villes, c'est pas Dieu qui fait ça. Mais quand ça surgit, par exemple, on sait que après les grands tremblements de terre dans notre siècle, les gens tombent à genoux souvent et prient. Quand les villes sont dévastées par des cataclysmes, des ouragans ou toutes sortes de choses, les gens prient. C'est curieux comme les gens se réfèrent à Dieu plus facilement. Alors cette sinistre prédiction pour les sourds volontaires du peuple juif qui ne veulent pas entendre les avis de salut, a retenti donc dans ce temps sous Isaïe en 738 avant Jésus-Christ. Et Isaïe fut auprès de son peuple bien le porte-parole de Dieu pendant une quarantaine d'années sous Joatan, Achaz et Ézéchias. Et le roi Ozias, lui, qui est disparu en 738 lors de cette grande révélation qu'a reçue Osaïe, avait eu un règne heureux et prospère. Si l'on considère que les apparences, en somme, l'essentiel, toutefois, le culte de Yahvé, la vie religieuse et la vie morale laissaient beaucoup à désirer. Et sous son successeur, Joatan, qui allait régner lui pendant seulement 2 ans, les 2 premières années après que Isaïe ait reçu sa vision, mais le bien matériel et la débravation morale avaient continué le ravage spirituel. C'est un peu comme ici, dans notre Occident. Les biens matériels, la débravation morale, ça fait des ravages spirituels. Et aussi, les premiers messages d'Isaïe ont-ils été sévères? C'était lourd d'accusations et de menaces. Et le roi était personnellement, lui, assez pieux et laissait faire le prophète. Il n'en fut pas de même, alors là, sous Achaz, ça faisait 2 ans que prêchait notre Isaïe. Et pendant 9 ans, Isaïe a eu beaucoup de difficultés. Le roi, qui était un idolâtre, a fermé le temple. Il a immolé, imaginez, son propre fils à Moloch. Qui était Moloch? Ça veut dire roi, Moloch. C'est une divinité phénicienne à qui, à l'époque, on sacrifiait des enfants. Comme on les sacrifie aujourd'hui par l'avortement. Et même par l'infanticide. On préconise souvent l'infanticide pour les enfants qui seraient trop grand poids, dit-on, à la société parce qu'ils sont mongoliens ou spina bifida ou paralysés cérébraux. On préconise ça, vous savez, l'euthanasie des enfants nouveau-nés. Est-ce que les lois vont passer? Qu'est-ce qu'on a à ne pas être capable d'accepter nos enfants et les aimer? Qu'est-ce qu'on a? Alors ce roi terrible, Akaz, a immolé son fils à Moloch. L'horizon politique s'est assombri. Là, il y avait une tempête terrible qui montait sur Israël. Ça risquait de le faire périr. C'était ce Tiklat Phalazar. Il y avait une domination sur toute l'Asie occidentale qui était Tiklat Phalazar III qui régnait assez longtemps. Mais c'était le roi de la Syrie, Assyrie, qui était devenu une puissance redoutable. Mais Isaïe s'est tué jusqu'à l'avènement du roi Ézéchias en 727, qui était un roi pieux et zélé, qui a pris à cœur de restaurer le culte et de détruire les hauts lieux où l'on adorait les idoles et les forces de la nature païenne, comme la déesse Gaïa aujourd'hui, que l'on vénère de plus en plus dans notre monde. Ce Isaïe, en politique étrangère, a conseillé vivement le roi Ézéchias. Il lui a conseillé le respect du pouvoir assyrien afin d'éviter toute difficulté. Et peut-être n'avait-il pas tort du point de vue simplement humain, parce que la ville, la capitale de l'Assyrie, Ninive, avait alors une suite de rois, de princes, qui étaient irrésistibles et imbattables. Rappelez-vous les noms, vous avez peut-être vu ça dans les textes, hein, Salmanazar, Sargon, Sennachérib, c'était des gens extrêmement puissants. Alors, Isaïe avait déconseillé vivement d'avoir une politique contre les Assyriens. Et vers 711, là, à l'occasion de la prise d'Asdod par les Assyriens, ben là, Isaïe s'est promené longtemps déshabillé et déchaussé. C'était un prophète. Hein. Il s'est promené longtemps déshabillé et déchaussé à Jérusalem pour mimer les convois de prisonniers égyptiens, nus et trébuchants, qu'on verrait bientôt. Alors, comme ces faibles qui, lorsque tu sembles perdu, ont un beau sursaut d'énergie, le roi Ézéchias, le roi juif, décida la lutte à outrance et Isaïe l'a encouragé. C'est dans le texte, c'est dans la Bible. « Voici ce que dit Yahvé sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas une flèche. Je défendrai cette ville et je la sauverai. Une épidémie subite frappa le camp ennemi et Sennachérib regagna Ninive. » Et après cette délivrance, on ne sait plus rien de la vie d'Isaïe. Et d'après la légende, il serait mort. Il serait mort comment? Scié en deux, sous le roi impie Manassé. La politique d'Isaïe tient en trois mots, et elle est très bonne pour nous. Hein. C'est d'avoir la foi en Dieu, la foi en Yahvé, et une conception profonde du primat du spirituel. Ça me rappelle ce livre de Jacques Maritain, La primauté du spirituel. Faudrait bien relire aujourd'hui ce livre, La primauté du spirituel. Et le colosse assyrien, les ennemis du peuple juif, ne lui en impose pas. Il sait que la démesure, les exagérations sont vouées à l'échec. Le salut, pour lui, est seulement en Dieu, en Yahvé. Et en Yahvé seul, il dit, si vous ne croyez, vous serez broyés. C'est au chapitre 6, verset 9. Si vous ne croyez, vous serez broyés. Je crois que les gens qui n'ont pas la foi, souvent, sont vraiment broyés. Comment peut-il avoir une espérance? Ils sont broyés dans leur cœur. Hein? Il y a dans Isaïe sur Dieu des vues d'une beauté, d'une profondeur qui font de lui une sorte d'évangéliste, un cinquième évangéliste. Pour reprendre un mot Saint Jérôme, il est pénétré de la sainteté de Dieu, de sa majesté, de sa transcendance absolue. Le culte pour lui, quand il est plus ou moins formaliste et idolâtrique, mais c'est une monstrueuse indignité. Si on célèbre des messes simplement pour qu'elles soient belles et sensationnelles, à mon avis, c'est sans grand intérêt. Si on n'y prie pas, il dit que le petit reste échappera de la misère. C'est là le germe de la sainteté et du bonheur futur. Il attache énormément d'importance à la sainteté et aux saints. Le Sauveur sera un prince davidique, dit-il, né d'une vierge. Il sera Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu fort. Et vous connaissez ces textes que l'on célèbre au temps de Noël. Il deviendra pour les païens comme un étendard de ralliement, ce Sauveur. Et dans une seconde partie du livre, chapitre 14 à 56, le Sauveur est présenté comme un serviteur de Yahvé qui aura à subir une véritable passion. C'est très beau les textes, il faut lire ça. Hein? Il offrira sa vie, dit-on, puis glorifié, il deviendra la lumière des nations. Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ? Et cette seconde partie pourrait bien être d'un autre Isaïe, un Isaïe 2, comme on dit, différent de notre grand prophète Isaïe. Bon, le décret de la commission biblique de 1908 s'oppose pas à ce point de vue-là. Et l'Isaïe numéro 2, là, ne s'adresse plus aux habitants de Jérusalem du 7e siècle, mais plutôt aux exilés déportés en Babylonie, c'est-à-dire en Assyrie, depuis 586. Et il leur annonce la délivrance imminente, le bonheur à venir, la gloire de la future Jérusalem. Les critiques, les exégètes, les spécialistes de la Bible parlent même qu'il est d'un Isaïe 3, un troisième Isaïe. Les martyrologes, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué l'autre jour, les listes des saints du christianisme, que l'on retrouve en particulier chez les latins, chez les catholiques latins, offrent saint Isaïe au 6 juillet, aujourd'hui. Ça date depuis saint Bède le Vénérable, dont je vous ai déjà parlé, qui est du 8e siècle après Jésus-Christ, lui. Mais Isaïe, il est du 8e siècle avant Jésus-Christ. À Constantinople, chez nos frères chrétiens orthodoxes, il y avait, le 9 mai, une très, très grande fête pour ce saint Isaïe. Parlant de nos frères orthodoxes, je tiens à vous rappeler combien la visite du patriarche de Constantinople, Bartholoméos Ier, à Rome, quand il a visité notre Saint-Père le Pape, est extraordinaire. Dans un texte paru dans La Croix, on dit ces quelques lignes, on vous en parlera ailleurs ici à Radio Ville-Marie. Tous deux sont devenus ce jeudi inséparables, côte à côte pour traverser la basilique Saint-Pierre de Rome, pour présider la liturgie de la parole, pour bénir la foule de la loggia. La loggia, c'est ce balcon au-dessus des portes centrales de Saint-Pierre où on voit toute la place Saint-Pierre. Ils ont béni ensemble la foule, n'est-ce pas beau? Et ils sont allés déjeuner ensemble. Et ils se sont dit au revoir à la tour Saint-Jean. Ils avaient l'air de vieux complices, dit-on, deux sages. Celui-ci à la longue barbe blanche, celui-là avec la canne et le poids de 20 ans de plus. Un duo pour l'Angélus. L'un de sa voix toujours forte, l'autre dans le registre plus grave, habitué aux lentes mélopées orthodoxes. Que ça fait chaud au cœur de les voir prier ainsi. Je vous dis au revoir, et n'hésitez pas à invoquer Sainte Maria Goretti pour la force de cette jeune fille, sa grandeur d'âme, son esprit du pardon.